Salut les marques et les smarts et bienvenue dans le supplément SmackDown, votre podcast officiel des cahiers du catch qui résume et analyse l'actualité du show bleu de la WWE. SmackDown Live, je suis Giscal, nous inversons les rôles cette semaine et je suis accompagné, du coup comme toujours, de mon ami Irem. Comment ça va Irem ?
C'est pas facile hein, je sens que tu es troublé.
c'est tout un métier.
J'ai cru que t'allais dire je suis accompagné de l'ami Giscal.
Et non.
Mais sinon ça va très très bien, là j'enchaîne les vacances donc je vais pas me plaindre. Hein. Et toi comment vas-tu ?
Écoute, ça va très très bien. Mais on n'est pas là pour parler de foot, hein, mais pour ceux qui suivent le foot, il y a eu une belle nouvelle là, donc du coup je suis de très bonne humeur. Mais bon, on est là pour parler catch.
Je ne vois pas de quoi tu parles.
Donc sans transition, nous allons parler aujourd'hui du SmackDown du 1er août. Ça y est, on arrive au mois d'août. Nous étions à la Quicken Loans Arena de Cleveland, dans l'Ohio, hein, la maison des Cleveland Cavaliers de LeBron James, pour ceux qui suivent la NBA. Au menu ce soir, AJ et Kevin nous refont Battleground, mais en mieux. Aiden English nous enchante. Chad Gable crève l'écran. Le grand Rubik's Cube féminin continue. Et John Cena est indestructible.
On voit que c'est toi qui fais le résumé là.
Allez, on va commencer tout de suite et on commence avec qui ? Bah avec AJ Styles et Kevin Owens pour le fameux rematch invoqué la semaine dernière par Kevin Owens. Hein, Kevin Owens hors de lui d'avoir perdu son titre. D'avoir reperdu son titre dans un triple threat contre AJ Styles et Chris Jericho, après l'avoir gagné finalement juste avant à Battleground contre AJ Styles. Ils nous remettent le couvert en opener de l'émission. Les deux catcheurs entrent, hein, AJ Styles comme d'habitude sous une pop assourdissante, Kevin Owens qui du coup n'a toujours pas changé de titantron, hein, il ne perd pas espoir de conserver sa ceinture pour que son titantron soit de nouveau dans le ton.
Ouais, il se considère toujours comme étant le nouveau visage de l'Amérique.
Exactement. Donc Kevin Owens qui commence très fort, hein, qui prend le contrôle du match assez vite. Styles qui finit par reprendre la main avec sa vitesse, ses coups de pied, descente du genou pour le compte de deux. C'est alors qu'arrive la première tentative de Phenomenal Forearm assez vite dans le match, mais Owens qui l'évite en sortant du ring, ce gros malin. Et il profite d'être hors du ring pour contrer AJ Styles, l'envoyer dans les barricades et l'écrabouiller d'un cannonball terrible, ce qui va donc du coup lui permettre de reprendre la main dans ce match. Il va remettre un petit peu tout le monde dans le ring, travailler au sol, donc on est dans la phase de domination assez classique. AJ qui tente de résister, AJ qui finit tout de même après la pub salvatrice à contrer Kevin Owens, coup de corde à linge dans les coins, le tiebreaker d'AJ Styles, hein, bon, le Ushigoroshi, pour le compte de deux, Calf Crusher, mais Kevin Owens qui s'en sort de manière assez sympa avec des gros coups de boule dans la face. Ouais. Owens qui veut en finir avec une sorte de powerbomb package un peu modifié. C'est un contre pelé kick d'AJ Styles. Il tease le Styles Clash. Non, contré une nouvelle fois par Owens. On commence à sentir, hein, de plus en plus l'alchimie entre les deux. Contré par Owens, mais Calf Crusher, encore une fois, j'adore, hein, la façon dont Styles amène ses Calf Crusher position debout. Ils le font très très bien ensemble. Joli spot, mais Owens qui finit par ramper jusqu'aux cordes. On arrive alors au tournant du match, alors que Owens tente de coller une grosse droite à AJ Styles. Celui-ci se baisse, l'arbitre était juste derrière. Ref bump, patate dans l'œil de l'arbitre qui est tout étourdi. AJ qui dans la foulée contre la pop-up powerbomb de Kevin Owens par un petit paquet. Les épaules du challenger ne sont clairement pas au sol, mais l'arbitre qui, avec un seul bon œil, hein, et comme ça, il tape, il compte jusqu'à 3. Stupeur de Kevin Owens. Victoire donc, AJ Styles conserve son titre au bout de 17 minutes, assez enlevé, beaucoup plus sympa qu'à Battleground, en tout cas me concernant. On enchaîne tout de suite un peu sur le segment post-match, hein, parce que Owens est complètement hors de lui. Donc la scène est assez différente, hein, de ce qui avait pu se passer à Battleground, malgré du coup la controverse. Owens n'accepte pas le résultat. AJ Styles qui lui, il a gagné, hein, il rentre en coulisses. Owens qui se précipite dans les coulisses. à la poursuite de l'arbitre, l'arbitre qui est réconforté, un petit peu consolé, en tout cas, enfin, on s'occupe de lui. C'est Shane et Daniel qui sont en train de s'occuper de l'arbitre. Owens qui bouscule tout le monde, qui arrive avec ses gros sabots, qui dit que c'est un scandale, que c'est une honte, qu'il veut absolument un rematch. Il veut, non, d'ailleurs, au début, il veut même pas, il veut que le match soit annulé, qu'on recommence et tout. Il veut même pas de rematch. Donc Shane et Daniel essayent de lui expliquer. Il y a eu une erreur, c'est évident. Il y a eu une erreur, tout le monde l'a vu. On est désolé, mais bon, bah, il faut que tu respectes les officiels. Tu dois accepter la décision de l'arbitre. Alors là, Owens qui commence à vraiment s'énerver, il pousse l'arbitre, il pousse Shane. Ça monte dans les tours. Owens veut un rematch avec un arbitre qui ne se couchera pas à la moindre bourrasque devant. Bon, il a quand même mis une droite dans la face. Et du coup, Daniel Bryan a une idée. Il dit que ce sera un rematch à SummerSlam. Et qui sera l'arbitre? Shane McMahon. Shane McMahon qui donc bah voilà, s'immisce dans cette rivalité, dans cette tension hein, qui montait, on le sentait depuis plusieurs semaines. Kevin Owens qui avait un petit peu pris la place du Miz à SmackDown avec la figure d'autorité, hein, lui il s'attaquait plutôt à Shane. Et du coup, bah voilà, nous avons une affiche, donc un AJ Kevin Owens numéro 3 ou numéro 4 à SummerSlam avec là, un invité de marque avec la chemise à rayures. Qu'est-ce que tu as pensé de tout ça?
Alors le match est très très bon match que je te rejoins sur le fait qu'il était meilleur que celui qu'ils nous ont offert à Battleground. L'alchimie entre les deux, elle est indéniable, hein. C'est vraiment deux excellents catcheurs de toute façon. Et je suis très content d'avoir enfin cette rivalité et qui comme a quand même commencé avec un sacré sac de nœuds là, hein, entre ces victoires, enfin la première victoire au Madison Square Garden, la controverse, pardon, je me mouche en même temps parce que malheureusement, à force de, il y avait beaucoup la clim là où j'étais en
Même des
vacances.
points.
Et du coup, voilà, mais je survis, hein, je suis un guerrier, le guerrier du podcast. Bref, ouais, un sacré. Il y a la fièvre qui monte, je commence à délirer. Ouais, donc le finish un peu étrange qui nous avait été offert à Battleground, justement,
Ouais, tout à fait.
plus le retour de Chris Jericho. C'est un sacré sac de nœuds, et là où pour moi, la suite logique aurait été. Alors, c'est vrai qu'ils ont joué sur le côté, sur l'arbitre. Donc, effectivement, souvent, quand t'enchaînes deux décisions litigieuses d'arbitre, qu'est-ce qu'on fait? On met les professionnels de côté, et puis on invite. Ah, ok,
Un
vous êtes
amateur.
un amateur. Parce que, non, mais c'est toujours ça, la solution, quoi, est
Toujours un peu
complètement
bizarre.
débile. Mais, bon, après, sûr, en termes de star power, ça se tient bien là. Et, en plus, il y a un historique avec AJ Styles, même s'ils l'ont, je crois pas qu'ils en ont fait forcément beaucoup
Non, pas
référence,
encore, non.
mais ça reste intéressant. Moi, j'aurais plutôt vu quelque chose de l'ordre des un best of seven series,
C'est vrai que ça s'y prêtait un petit peu, le côté ultra compétitif, ils se battent
bah c'est
leur peau
ça,
et tout.
c'est ultra compétitif. Clairement, il y en a pas un qui est meilleur que l'autre, parce que tout. L'issue du match, pas à chaque fois,
C'est un peu ce qu'on nous vend, ouais,
c'est ce
c'est
qu'on nous
ça.
vend, quoi. À tout moment, l'un peut battre l'autre, ils se tiennent tête, ils sont vraiment au même niveau, et du coup, quand tu mets une ceinture entre les deux, bah, la ceinture, elle fait un peu passe-plat, enfin, c'est un coup à toi, un coup à moi. J'aime bien cette idée-là, je l'aime d'autant plus que on aura toujours ce mystère de savoir qu'est-ce qui avait été de l'ordre de l'impôt du prévu et de l'ordre de l'imprévu. Donc ça rajoute un peu de matière à cette rivalité. Alors après, voilà, le choix de faire venir un spécial guest, pourquoi pas. De toute façon, l'affiche sera belle. Je suis très content que ce soit les deux là qui se battent pour la ceinture à SummerSlam. C'est quand même super. J'ai la boîte de mouchoirs à apporter. Mais c'est quand même une superbe affiche pour SummerSlam. Voilà, juste un peu frustré sur le choix de la stipule, on va dire.
D'accord, ok. Ouais, bon, c'est vrai que c'est ce type assez classique, on va dire. Pour les pay-per-view de gala que sont WrestleMania et SummerSlam, c'est une stipulation qui marche bien, on va dire, avec le public. On aime bien faire venir un special guest referee, même si c'est toujours assez paradoxal. C'est vrai qu'il y a des problèmes d'arbitre depuis des semaines, alors du coup, on va faire venir un amateur.
Ouais.
Bon. Bon, c'est vrai que c'est rigolo et ça nous promet quelques clins d'œil sympas parce que c'est vrai que, comme tu l'as dit, bah, la dernière feud en date de Shane McMahon, c'était AJ Styles, pas plus tard qu'au dernier WrestleMania. Et donc, bah, du coup, à SummerSlam, il se retrouve encore et cette fois, c'est parce qu'il est aux prises avec Kevin Owens. Beaucoup disent que en toile de fond, on va avoir probablement un Shane Kevin Owens au prochain WrestleMania. C'est vrai que du coup, pourquoi pas, ça pourrait être le début de la graine qui rallumera peut-être la rivalité dans quelques mois quand il faudra trouver un adversaire à la nouvelle face de l'Amérique qui reste donc bah, sans ceinture pour le moment. Mais qui en effet bah, nous, ça nous promet une revanche à SummerSlam de très très bonne facture s'ils continuent sur leur lancée de ce match-là.
Clairement, ils ont le début de leur rivalité, enfin le tout début de la rivalité remonte à bah, la première apparition des AJ Styles, qu'il s'était fait éliminer par Kevin Owens et qu'il lui avait balancé bienvenue à la WWE.
Ouais, tout à fait.
À partir de ce moment-là, de cet instant, j'étais juste impatient de voir les deux entrer en rivalité et ça y est, on y est. Le début, le démarrage un peu pataugé, ils ont fait des choix un peu discutables, je sais pas, mais on avait l'impression de passer à côté du début de cette rivalité-là, de ce début de rivalité, et bon, il continue, donc impatient de voir la suite, assurément.
Yes. Allez, on continue avec la division tag team et les Usos. Les Usos qui, après leur innommable agression de la semaine dernière sur les New Days qui venaient fêter leur titre fraîchement acquis de champion tag team, les Usos viennent narguer tout le monde avec une petite promo. Ils sortent sur un nouveau theme song. Enfin, c'est pas vraiment un nouveau theme song, il est un peu remixé avec... donc c'est toujours la même musique, mais on entend en toile de fond les frangins Usos qui rappent dessus, donc c'est assez sympa. J'aime beaucoup, moi, personnellement, je trouve que ça colle bien. Bonne petite promo des deux, toujours dans leur style très particulier, où ils se répondent à toi, à moi, assez captivant à écouter, je trouve. Donc ils se moquent des New Day, ils se moquent de tous les atours des champions, le tricycle, la glace sucette, les licornes, tout ça, ils se moquent un petit peu de tous les attributs enfantins du New Day, alors que voilà, c'est bienvenue dans le pénitencier des Usos. Donc il leur dit, bah, nous on vous laisse, hein, tout ça, là, les tricycles, les glaces et compagnie, ça on vous les laisse. Par contre, il y a un truc qu'on va vous voler, c'est votre catchphrase. Et donc il commence à faire un Uso Rocks sur le thème du New Day Rocks. Et voilà pour les Usos cette semaine. Un petit mot peut-être sur les Usos.
Non, c'est leur meilleur pénitencier, en fait. Ah, c'est une maison de correction, hein, parce que s'ils s'en prennent aux gamins. Mais non, c'est toujours aussi bien. Et puis ouais, le nouveau remix de leur theme song est plutôt sympa. Et une fois de plus, SummerSlam, la carte côté SmackDown, on en reparlera parce que d'autres choses vont se dévoiler. Mais pour l'instant, elle est assez solide dans chaque division.
Oui, en effet, on se doute qu'il va y avoir un rematch entre les deux équipes.
Pas forcément toutes les divisions, mais là, les deux divisions, enfin les deux ceintures dont on parle. je suis en train de refaire la liste en même temps que je dis ça. Je dis putain, mais mec, t'es en train de raconter une grosse connerie.
On va en reparler. On continue avec toujours les équipes et avec le segment de la soirée qui nous réconcilie avec la vie. Nous avions été privés la semaine dernière des Files de façon injuste, mais cette semaine nous allons pouvoir savoir ce qu'il est advenu de Fandango, puisque les Fashion Files reviennent sous la forme des Fashion Picks. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, parce que bon, tout le monde ne peut pas connaître, mais bon, c'est pour ceux qui connaissent, en tout cas c'était absolument incroyable comme segment, parce que c'est une parodie des Twin Peaks. C'est une série qui a fait un carton début des années 90, écrite par David Lynch. C'est ça que je vous présenterai pas, et qui a été reprise récemment. Il y a une nouvelle saison qui est sortie là en 2017, sorte de policier un peu fantastique, mélodramatique, un peu ridicule, fantasque, sur les aventures d'un agent du FBI qui, du coup, Dale Cooper, qui est joué ici par Tyler Breeze. Et donc, bah, grosso modo, on revoit Tyler Breeze comme toujours devant son petit panneau en liège, avec un téléphone portable qui lui sert de dictaphone, il récapitule l'agression de son partenaire à Battleground. Il se demande où est-ce qu'il est, il mène l'enquête devant, alors c'est très drôle, sur le tableau on a un petit peu plein de références à la filmographie justement de David Lynch. Il y a une affiche Eraserhead, il y a Firewalk With Me sous Kane, c'est un autre film de David Lynch.
Qui était lié à la série, en fait.
Exactement, qui était une suite de la série. Enfin bref, plein de petits
T'as
trucs
aussi une
encore
photo de Becky Lynch, toi,
et tout
ou...
de Becky
Est-ce
Lynch.
qu'elle est la sœur cachée de David?
C'est ça. Donc c'est très très drôle. Encore une fois, ils sont très. Tu sens qu'ils prennent beaucoup de plaisir à faire toutes ces références partout. Et donc là, il prend sa tasse de café et il sort une des catchphrases très connues du héros dans la série. C'est ce damn fine cup of coffee. Mais en fait, c'est pas du café. C'est très bizarre ce qui se passe. Il vide sa tasse et il se rend compte que c'est une sorte de mélasse dedans là. Et là, les lumières commencent à crépiter, rougissent. Et là, vision d'horreur. Il y a Fandango avec une voix un petit peu à la Wyatt, un peu cryptée là, qui danse et qui est flanquée de The Ascension des deux côtés. Alors on sait pas trop ce qui se passe. The Ascension qui sont en train de verser du sirop d'érable sur un morceau de bois pendant que Fandango danse au milieu. Là, c'est absolument déroutant. Et donc là, Tyler Breeze qui s'évanouit un petit peu en hurlant ah, stop, arrêtez les métaphores, arrêtez les métaphores. Et donc on se rend compte que c'était un rêve. Et donc, tintin, fin de l'épisode. On n'en sait pas plus. Moi, je me demande, alors je sais pas, je vais demander ton avis. Je me demande si vraiment, alors bon, moi, j'ai pas compris les métaphores personnellement, donc je sais pas trop ce que ça veut dire. Mais est-ce que en fait, maintenant, l'enquête, on s'en fout un peu. Enfin, il y a pas vraiment de solution à cette enquête. C'est juste un prétexte pour qu'ils s'amusent chaque semaine. Et en fait, il y a pas forcément de.
Ouais, bah clairement, bah il y a eu la bascule, ils ont jump the shark, comme on dit dans le langage des séries télé, même si c'est plutôt négatif en général quand on dit ça, mais ils sont passés carrément à autre chose. Effectivement, l'enquête n'est plus le truc le plus important, c'est le, comment ils appellent ça aussi, tu sais, là, avec, c'est Hitchcock, je crois, qui faisait souvent ça, où en fait, au début, t'as un prétexte pour lancer une histoire, et
Oui.
puis finalement, l'histoire ne résout jamais, on y revient
Ah,
plus jamais,
il n'y revient plus, oui.
c'est juste un prétexte, quoi. Voilà, si vous vous souvenez, c'est un terme, c'est un
Je
concept, voilà,
me
je fais
souviens
appel
plus.
à la culture générale et cinématographique de nos auditeurs, mais ouais, je pense qu'effectivement, c'est plus ça qui est important, clairement, ils sont
Ouais, en fait,
partis,
finalement, on s'en fout,
tellement
hein.
dans
Ouais.
autre chose, quoi. On suit les aventures de ces deux pseudo-flics, et puis c'est tout. Et c'est juste de la. C'est très pop. Ça marche bien parce que c'est très méta, très
Ouais.
référencé. Donc les gens adorent ça.
Chaque semaine, il change d'époque et tout. Enfin,
Ouais,
c'est.
à la fin, franchement, là, Fashion Peak, c'était juste excellent, quoi. La gueule de la vie de recherche, la gueule de Fandango sur la
Ah
vie
ouais,
de
incroyable.
recherche.
Tu t'entendais le public qui se marrait
Ah
derrière.
là, mais le public se poil. Franchement, je pense que. Tout le monde est comme nous à Catch-Up, c'est notre petite friandise qu'on attend chaque semaine, et quand on l'a pas, on n'est pas content, quoi. Donc
Hein,
c'est la
exactement.
série dans la série, c'est limite ce qu'il y a de plus, le plus, enfin c'est ce qui se rapproche plus de la série du côté serial que tu peux avoir dans les autres TV shows, et qui finalement on a un petit peu dans le catch, mais c'est juste une couche parmi d'autres, hein, le côté serial que tu peux avoir dans le catch avec les aventures à suivre pour tes catcheurs, etc. Là vraiment, on a vraiment l'envie à chaque fois, si tu loupes un épisode, t'es pas bien, toi.
Ben ouais, exactement, tu sais plus ce qui se passe. Ouais.
Donc,
Non, mais je suis
c'était
d'accord.
super,
J'ai
ouais.
trouvé ça extra encore une fois. Donc bravo, bravo à eux, cette capacité de renouvellement toujours. Donc vivement la semaine prochaine. J'espère qu'il y en aura un autre. Allez, on continue. Et on continue avec deux Gaelurons, Aiden English et Sami Zayn, qui avaient un match cette semaine. Aiden English, qui a le droit à une longue, longue entrée. D'opéra, hein, tout en chant. D'ailleurs, c'est moi, ça m'a frappé plus que d'habitude. Il chante vraiment bien, quand même. Il a vraiment une
Ah
belle voix. Il a vraiment une belle voix, donc il nous a fait toute une longue entrée. Comment il nous expliquait qu'il allait battre Sami Zayn et tout. Donc voilà, très très joli, sous le regard complètement dépité, désabusé de Sami Zayn. Mais il s'avère que le match était finalement beaucoup plus rapide que toute cette entrée, puisque malgré un rythme plutôt enlevé, ça partait sur des bases assez élevées. Et ben, il y a une victoire surprise de Aiden English, comme quoi, voyez-vous. C'était pas si farfelu, mon prono de l'avoir fait gagner au pré-show, et puis ça continue pour lui. Il a l'air de bien fonctionner, puisqu'il glane une nouvelle victoire de prestige sur Sami Zayn, sur un roll-up, voilà, au bout de 2 minutes. Donc un Sami Zayn tout surpris. Et moi, personnellement, un petit détail qui m'a chagriné, c'est que Aiden English s'est esquivé un petit peu vite après cette victoire, et nous avons tout de suite transité vers. La musique du Power of Love, le riff de guitare dégoulinant d'amour du couple Canellis, qui est venu du coup se moquer de Sami Zayn, ce qui a enlevé un petit peu le spotlight sur cette victoire qui a été assez vite oubliée, j'ai trouvé. Mais c'était assez drôle, encore une fois, de voir la victoire de la tête de Sami Zayn qui, après, s'est fait battre par Aiden English. Il y a la musique des deux autres clowns qui arrivent et tu vois sur sa tronche qui dit « Putain, mais j'en peux plus donc voilà, petit segment tout très court. Qu'est-ce que tu as pensé de ça pour la low card de SmackDown ?
Moi, je suis très content pour Aiden English parce que, clairement, ce type a du talent, suffisamment de talent en tout cas pour être bien exploité dans la low card et c'est assez rafraîchissant. Et finalement, tout ça, il retrouve un peu la formule SmackDown qui fonctionnait bien il y a un an avec de la bonne low card, agréable à suivre et avec des personnalités fortes et du bon catch parce que c'était assez solide comme tu dis de première minute. Maintenant, je sais pas, par rapport à Sami Zayn, c'est un peu frustrant quand même. Je commence un petit peu à trouver le temps long vis-à-vis de son utilisation. Sami Zayn en low card, c'est bien de jouer avec la frustration des underdogs pour peut-être un jour, parce qu'on n'en sait rien, toi, mais pour un jour. Le but de l'underdog, c'est qu'il reste pas éternellement non plus à la niche.
Non,
quoi.
C'est
lui,
au bout d'un moment.
Lui, il est quand même à la niche, le collier bien accroché. Je suis un peu frustré. Et puis, on va voir. Ça va aller jusqu'à SummerSlam, j'imagine, cette histoire avec les canaries.
Je pense que ça va aller jusqu'à SummerSlam.
Je suis impatient qu'il passe quand même un peu à autre chose.
Ok.
J'ai l'impression qu'ils savent vraiment pas trop quoi en faire.
Non, ils ont probablement pas de programme pour lui en effet. Je vois ce que tu veux dire. Moi, je suis moins inquiet parce que.
Je suis pas inquiet, mais je suis impatient.
Sami Zayn, c'est vraiment l'underdog parfait pour moi et il a du potentiel. Ça peut aller très très vite pour un personnage comme lui.
En fait,
il suffit qu'il le lance dans un programme et la foule. Il a un tel capital sympathie. Il est tellement fort dans son personnage de babyface, underdog, marrant, un peu goofy, là, un peu loufoque et tout, que en fait, ça reprendra tout de suite. Donc moi, je trouve qu'il est, il est à un programme de vraiment retrouver le haut niveau. Donc en fait, c'est pas un personnage pour moi qui est en danger quand tu le laisses végéter un peu dans la low card. Il sera quoi qu'il arrive toujours. Bon, c'est mon avis, hein, parce que j'y vois vraiment du. C'est un peu, il a du potentiel Daniel Bryanesque un peu là dans
oui,
son personnage.
La comparaison, elle est toute trouvée. Hein.
Et ça peut aller très vite, donc c'est pour ça que je suis pas inquiet. Après, c'est vrai que pour ceux qui aiment bien Sami Zayn et pour les fans de Sami Zayn, bon, le temps peut paraître en effet un peu long. C'est vrai, il faut reconnaître que ça fait un petit moment qu'il est là.
On lui souhaite tous une trajectoire à la Daniel
Bryan.
Hein, ça c'est clair. Donc non, mais je suis pas inquiet, comme tu dis, parce qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter, et c'est vrai que tu as raison, c'est vraiment le genre de personnage de catcheur qui peut se permettre d'aller tout en haut et tout en bas sans qu'on y retrouve, sans que ça soit bizarre, toi, parce qu'en plus, comme tu l'as dit, il est drôle et loufoque, donc clairement, il a des super interactions avec quasiment tout le roster, et ça, c'est un point fort, quoi. Quand un catcheur peut se permettre d'interagir de façon sérieuse ou de façon drôle avec tout le monde. Avec les main eventers comme avec les low carders, c'est des mecs qui sont faits pour durer et qui vont potentiellement qui peuvent aller rapidement remonter tout en haut. Ça, je suis entièrement d'accord. Mais là, c'est juste. Bon, je commence à trouver le temps long, tout simplement.
Yes. Ok. Eh bien, écoute, je pense que tu ne seras pas le seul à avoir cette frustration, ce ressenti.
Des malins et qu'ils font ça exprès. Hein.
Et un petit peu, je pense, ça fait partie du personnage aussi. Mais bon, ouais, écoute, c'est objection retenue. On suivra le cas Sami Zayn jusqu'à SummerSlam et après, on verra ce qui lui réserve. En attendant, on va continuer avec la division qui est dans le dur en ce moment, les filles. Et j'avais parlé du Rubik's Cube féminin qui continuait cette semaine. Ça continue. Enfin voilà, moi j'avais cette image-là parce que j'ai l'impression qu'on essaye un petit peu toutes les combinaisons semaine après semaine, parce que on sait pas quoi faire. Donc du coup, On mélange un peu, puis on verra bien ce que ça va faire. Et donc cette semaine, nous avions le droit à Naomi et Becky Lynch contre Carmella et Natalia. Voilà, j'ai pas les statistiques, je sais pas si c'est un quatuor qu'on avait déjà vu ensemble. Toujours est-il que rien de bien intéressant dans ce match. Naomi, j'avais noté qu'il n'était pas trop mal dans le rôle de la face en péril. Les méchantes qui dominent. Becky Lynch qui n'a quasiment pas eu d'offensive dans ce match. Carmella qui place son Code of Silence, mais qui est assez joliment contré par Naomi avec sa soumission néanmoins toujours aussi dégueu. Enfin, moi, je comprends pas comment ça peut faire mal. Et Becky qui vient s'assurer que Natalia n'intervienne pas pendant que Naomi soumet Carmella, qui tape. Victoire donc de la championne en 5 minutes. Voilà.
C'est tout. Ouais, ouais. Bah, écoute, enfin, franchement, pas de commentaire. Si, enfin. Moi, je sais pas, je vais faire probablement donner une crise cardiaque à pas mal d'auditeurs, même dans l'équipe, mais Becky Lynch, moi j'en peux plus en fait. Becky Lynch, j'en peux plus, elle est. J'aime vraiment pas le personnage qu'elle a, là. Elle joue la meilleure copine de Charlotte, et puis après là, c'est la meilleure copine de Naomi dans les backstage, enfin. C'est trop cucu la praline pour ce personnage qui. En fait. Pourquoi pas, toi? Pourquoi pas, elle aime bien s'amuser, c'est une rigolarde, elle passe du bon temps et tout, mais je préférerais qu'elle soit en mode je rigole en buvant de la bière et en pétant avec les garçons que, que en jouant la meilleure amie. Parce qu'en fait, je serais tenté de dire, comment ose-t-elle? Comment ose-t-elle faire l'idiote à s'amuser, à se moquer alors qu'elle est complètement. Enfin. Elle loupe toutes les occasions là. Elle est plus dans la title picture.
C'est vrai.
Elle a pas de grosse rivalité qu'elle gagne, etc.
Elle est pas sur la carte à SummerSlam.
Elle est pas sur la carte à SummerSlam.
Et elle rigole.
Elle, ouais, c'est un peu ça, toi.
Ouais,
elle devrait
vrai,
avoir ce feu qu'elle est censée avoir là, de combattante, etc. J'ai du mal à comprendre ce qu'ils sont en train de construire avec elle, parce que c'est pas. Je trouve que
ça
colle pas avec son personnage. Où est la rage d'avoir loupé opportunité sur opportunité, elle qui est la grosse bagarreuse, elle qui est la première championne de SmackDown. Je sais pas, ça colle pas avec le perso, quoi. Et à chaque fois que je la vois en train de faire l'idiote là, à jouer les meilleures amies avec une et puis la meilleure amie avec une autre la semaine d'après. Enfin, je sais pas, il devrait avoir de la rivalité. Là, elle est en équipe avec la championne. Ça devrait pas se passer comme ça, toi. Enfin.
Non, mais je suis d'accord. On est loin de l'époque où tu fais bien de rappeler qu'elle a été la première championne de SmackDown et qu'on se rappelle que quand elle perdait le titre, c'était un crève-cœur et qu'elle avait qu'une seule envie, c'était de le regagner. Elle parlait tout le temps de la ceinture, ouais. de SmackDown, de se battre et tout, Street Fire. C'est vrai qu'on en est loin là.
Là
on en est
de
très
toute façon,
très loin.
C'est ce qu'on s'est dit au début. On est revenu à ce pool là de filles. J'allais dire gonzesses parce que en fait, on revient à cette époque là où elles sont toutes interchangeables et elles ont toutes les mêmes mimiques. Elles sont toutes meilleures amies dès que elles sont face. Enfin, c'est nul quoi. Franchement, c'est à chier.
Ouais.
La division féminine. Non.
C'est ils sont laissés de côté complètement et donc en fait déjà c'est à la limite c'est bien elles arrivent à avoir un petit spot sur la carte quand même chaque semaine mais bon c'est vrai que c'est pas du tout intéressant. On va continuer avec quelque chose qui en tout cas me concernant était beaucoup plus intéressant. C'était un petit match impromptu entre Chad Gable et Rusev. Et oui, Chad Gable et Rusev qui s'affrontent pour la première fois. Mais bon, ça, c'est un commentaire qu'on pourra avoir pour pas mal de matchs de Chad Gable, hein, parce qu'il débute sa carrière solo, le jeune. Début de match très intéressant. J'ai trouvé très différent avec Chad Gable qui essaye de faire jouer son background de lutte. Mais Rusev est bien trop puissant hein, et qui se sert du bas de son corps pour rester debout. Chad Gable qui n'arrive pas à faire le takedown, donc à mettre Rusev au sol. Ça finit par passer enfin, mais Rusev se jette dans les cordes pour empêcher Gable d'enchaîner. Gable qui finit tout de même une fois de plus par mettre Rusev au sol et qui s'attaque au genou du Bulgare. Donc il essaye de s'attaquer aux fondations du colosse mais néanmoins Rusev qui finit par contrer avec un coup de genou et une très jolie souplesse et donc on rentre dans la phase de domination assez classique du méchant et tandis que Rusev déroule tout son arsenal. Chad Gable qui finit par esquiver un coup de boule du Bulgare et qui place une overhead belly-to-belly souplex magnifique. Surtout que, mieux que ça, il ne lâche pas prise et roule pour une seconde overhead belly-to-belly souplex. Il ne lâche toujours pas. Donc là, moi, personnellement, j'avais ma mâchoire au niveau de mes chaussettes.
Ouais.
Mais la troisième qu'il tente est contrée par Rousseff à grands coups de coup de boule dans la tronche. Ce qui n'empêche pas le tenace Chad Gable de placer une German souplex pontée sublime également pour le compte de deux. La foule, à ce moment-là, après cet enchaînement, est complètement acquise à la cause de Chad Gable. Ce qui m'a fait penser que c'était exactement pour ça qu'il ne pourrait pas gagner ce match, d'ailleurs. Et on va voir que Chad Gable qui grimpe sur la troisième corde parce qu'il veut faire il veut tenter son moonsault. Rousseff l'en empêche. Néanmoins, Gable, qui encore une fois est toujours trop rapide pour Rousseff, évite une charge du Bulgare dans le coin. Le Bulgare est sonné. Chad Gable qui finit par placer un magnifique moonsault vraiment parfait, encore pour le compte de deux. La foule est en fusion. L'action qui sort du ring. Mais en remontant, malheureusement, le rookie solo Gable se fait cueillir par un super kick qui claque fort de Rousseff, qui place son accolade. Et là, on sait, c'est terminé pour le pauvre Chad Gable qui est soumis donc par Rousseff après un effort quand même vaillant hein, de 9 minutes environ, entre 9 et 10 minutes. Un match que j'ai trouvé personnellement très rafraîchissant, très différent. Et avec pour moi un très bon call, enfin un très bon résultat de ne pas avoir fait gagner Chad Gable sur ce match. On en reparlera après dans le débrief du match. J'enchaîne juste sur l'angle post-match, puisque donc Rousseff profite de cette victoire pour faire une petite promo. En plus, il a bien mis tout le public en rogne, donc il est bien hué. Et donc il dit qu'il n'a pas d'adversaire à SummerSlam, que John Cena l'a battu avec à Battleground, mais il l'a pas vraiment battu. Il a juste planté son drapeau, mais il l'a pas vraiment battu. Bon, ça, c'est bien, ça nous confirme que la stipulation était nulle à chier. Donc il est trop fort, il a pas d'adversaire. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Randy Orton, la musique de la vipère, qui a été lobotomisé manifestement la semaine dernière et qui arrive. Et donc, qui a apparemment complètement oublié qu'il s'est fait screwer trois fois pour le titre. Hein, donc, il arrive. Petit taunt que j'ai trouvé sympa, puisqu'il tourne autour du ring. Rousseff qui l'empêche de rentrer dans le ring. Et Randy Orton qui prend le micro, qui fait « Non, mais t'as raison. Moi aussi, si j'étais au milieu du ring, je m'empêcherais de monter dans le ring avec toi. » Donc, il le taunt un petit peu. Il finit par rentrer. Et il challenge donc Rousseff à un match à SummerSlam, out of nowhere. Et c'est pas la seule chose out of nowhere, puisque Rousseff qui lui pète un câble avec une promo en russe, là. Ce qui, du coup, fait que Randy Orton va lui caler un petit RKO des familles. Terminé, bonsoir. Alors, le match d'abord, et puis la promo.
Alors, oui, effectivement, là, il faut scinder les deux. Enfin, faut clairement scinder les deux. Ouais. Qu'est-ce que je voulais dire ? Le match, super. Super match. Comme tu l'as dit, c'est un style qu'on voit très peu parce que. Et une écriture du match assez originale. J'ai beaucoup aimé. Il y a vraiment Gable, c'est juste un monstre, hein, clairement.
Très intéressant. Ouais.
Et il a vraiment ce background de lutte et son style
cette
de catch
puissance, hein.
Et sa puissance pour essayer de décoller Rousseff, c'est vraiment impressionnant. Et j'ai trouvé que Rousseff a aussi bien joué sa partition.
Ouais.
Ça m'a fait plaisir. Hein. On lui avait un petit peu reproché d'être revenu un petit peu en reculant, quoi, pas très motivé, on va dire. Là, je pense que ça lui a. J'en sais rien s'il lui a fait plaisir, mais clairement, sur le ring, c'était quand même plus agréable à suivre que le fameux flag match dont lui-même a.
De lui-même a avoué que c'était de la merde.
C'était de la merde. Donc, c'était vraiment super. Il y avait vraiment des séquences assez impressionnantes. Hein, cette triple souplesse avortée, là, qui était vraiment géniale. C'était de la belle écriture. Tu vois, le petit jeune qui commence à devenir trop sûr de lui, toi qui se la joue à la Brock Lesnar, et le gros fait bon c'est bon, deux fois deux mais pas trois. Il y avait vraiment une belle écriture simple mais efficace dans ce match où justement Ou le petit, toi, ça nous change du David contre Goliath un peu à la, justement à la Sami Zayn. Là, vraiment, le petit est fort, toi. C'est pas juste le petit est malin, rusé, rapide. C'est le petit est hyper balèze. Et du coup, c'est une variation sur cette thématique du David contre Goliath que je trouve vraiment rafraîchissante. Moins rafraîchissant est la rivalité qu'on nous a annoncée, qu'on nous a bookée à la sortie de ce match avec Randy Orton, qui fait au fait, bah moi non plus j'ai pas de match. Sur le chat, Monsieur Vulgaris qui nous dit que c'est une rivalité out of nowhere,
Complètement.
complètement. Est-ce que Randy Orton n'est pas un peu coutumier du fait des rivalités out of nowhere à SummerSlam? On peut se rappeler un petit peu de ce qui s'est passé avec Brock Lesnar, c'était l'année dernière, hein.
L'année dernière.
Où tu dis, bah, au fait, enfin moi j'ai pas peur de toi, enfin toi, moi je vais te donner un programme. Qui veut un programme pour SummerSlam? Qui veut un programme? Donc pourquoi pas? Pourquoi pas, hein, c'est une belle affiche, quoi
Ouais.
qu'on en dise, parce que c'est deux top stars, hein, bah on met les top stars, tous les top stars ont un programme pour SummerSlam. Ou presque, mais une fois de plus, c'est pas booké quoi, ou c'est
Non, c'est un peu
y a
ça
pas
le
de
souci.
rivalité entre les deux, et puis quoi, enfin j'espère que, enfin j'espère vraiment qu'ils vont pas nous faire encore une sauce USA versus le reste du monde quoi, parce que c'est bon,
Ouais, non, je pense
Randy
pas.
Orton il sort de ça, Rusev il sort de ça, juste de la compète toi, qui nous fasse
Ouais, une
vraiment.
bonne compète bien violente qui nous fasse un bon gros match de cogneurs, comme ils sauraient faire, je pense.
Ouais, voilà. Pourquoi pas? Pourquoi pas?
Écoute, ouais, pourquoi pas. Mais en fait, moi, le seul problème que j'ai avec ça, c'est que Randy Orton n'était pas là la semaine dernière et n'a pas pu nous expliquer pourquoi est-ce que
Oui.
il a changé de direction, en fait, parce que. À la limite, s'il y avait eu un segment la semaine dernière
C'est
pour
ça.
dire, écoute, je lâche l'affaire, fais chier, je laisse Jinder s'occuper, je fais confiance à Cena et Nakamura pour s'occuper de Jinder Mahal, c'est bon, machin. À la limite, ok, mais là, en fait, comme il n'y a pas eu de transition, ça faisait vraiment. Mais what? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bon. Après, voilà, comme tu dis, c'est une affiche qui est convenable pour
Oui,
SummerSlam.
convenable.
J'espère qu'ils feront un bon match. Et voilà, bon, voilà, en effet.
Mais
Après, voilà,
ouais.
je partage tes louanges sur le match et j'ai trouvé vraiment le Chad Gable excellent. Et pas que, j'ai trouvé que Rousseff, en effet, je tiens à féliciter Rousseff parce que, au-delà du résultat, pour moi, c'est vraiment Rousseff qui a jobé pour Chad Gable. C'était Chad Gable, la star du match. C'était lui de A à Z la star du match. C'était fait pour que Chad Gable soit acclamé du public et par voie de conséquence, c'était fait pour que Rusev derrière soit conspué de battre le petit Chad Gable. D'où, je pense à mon avis, le fait qu'ils aient voulu enchaîner avec l'annonce dans la foulée. Donc c'était très bien vu et c'est assez rare pour le souligner. Je trouve que c'est vraiment un excellent booking. Donc déjà, c'était très bien écrit le David contre Goliath et le fait de faire perdre Chad Gable, c'est exactement comme ça qu'il faut faire parce que on l'a rappelé le pauvre Sami Zayn lui ça fait longtemps mais il faut surtout pas donner la victoire que tout le monde attend aussi vite. On commence à découvrir Chad Gable, on commence à l'apprécier, le public commence à rentrer dedans. Si vous le faites tout de suite gagner un match comme ça terrible, c'est presque c'est trop donné. Donc il fallait moi quand je l'ai vu faire ses trois souplesses et complètement gagner les faveurs du public avec ça, je me suis dit c'est sûr il va perdre. Et il faut qu'il perde parce que du coup c'est bien, il est encore trop frais, mais on a vu son potentiel. Et ça se trouve dans quelques mois, peut-être que Rusev ce sera un petit peu sa feu, peut-être ce sera son boss de fin et qu'il finira par le battre après SummerSlam. Et
Ouais,
ça marchera mieux comme ça
bien sûr.
parce que il aura vadrouillé, il aura bourlingué et il aura sa grosse victoire, si possible en pay-per-view, ce qui serait mieux que de lui donner une grande victoire comme ça en weekly. Donc j'ai trouvé que c'était très bien joué. Donc bravo, bravo aux deux et bon bah attendons de voir ce que se donne ce Orton Rousseff. Mais bon en tout cas Orton un peu poisson rouge jusqu'à preuve du contraire ici. Allez, on va enchaîner et on va enchaîner avec ce pourquoi vous êtes tous ici, le main event de la soirée, le Dream Match. Hein, ils nous l'ont bien répété, annoncé la semaine dernière à la stupeur générale, match pour la place d'aspirant numéro 1 pour le titre de Jinder Mahal, Shinsuke Nakamura contre The Franchise, The Champ, John Cena dans une ambiance absolument électrique. John Cena qui rentre en premier, suivi de l'entrée toujours aussi impressionnante, hein, surtout quand elle est en main event et laissée en entrée sans, en entier sans pub. De Shinsuke Nakamura. On avait eu, je le dis quand même, on avait eu avant le match une petite interview de Jinder Mahal, hein, qui disait grosso modo qu'il s'en foutait de qui il allait affronter, puisque lui, il avait 1,3 milliard de gens derrière lui, qu'il allait gagner, tout ça, et qu'il allait regarder le match dans sa skybox. Parce que c'est toujours un petit truc que j'aime bien, ça, quand le champion, il va regarder le match dans sa skybox, tout ça, c'est vraiment bourgeois.
Dans la loge.
Qui toise le monde. Donc le match qui commence, mm. Hein, les Let's Go Cena, les Nakamura dans le public qui retentissent, on sent que c'est l'ambiance des gros matchs. Ils se jaugent, ils se toisent, ils essayent d'entrer en contact, hein, la petite prise de contact du début, mais ils esquivent chacun leur tour en se tauntant un petit peu. Cena qui fait le You Can See Me. Ils finissent donc par se rentrer dedans. Début assez lent, technique, beaucoup de prises au sol. Nakamura qui sort pas mal de contres sur des prises très classiques, hein, des bras à la volée, des clés des necklocks et tout ça. Il défie Cena, il lui dit vas-y, ramène-toi un petit peu. Il défie Cena de hausser le niveau. Il balance des gros coups de pied. Ça va être un peu le thème. Hein. Bon, c'est souvent le thème des matchs du japonais, beaucoup de coups de pied. Cena qui réplique lui avec des grosses mandales, un gros power slam. Il bloque Nakamura au sol. On joue, hein, vraiment sur la puissance de Cena dans ce début de match. Coup de pied encore et toujours de Nakamura qui essaie de se débattre. Compte de deux assez sympa après un running knee dans le coin qui sonne John Cena. Cena qui revient dans le match. Five knuckle shuffle. Non, five knuckle contré par donc un Shinsuke qui paye toutes ses séances vidéo backstage, hein, devant les écrans. Shinsuke qui place donc un triangle choke sur Cena qui est trop puissant, qui soulève le japonais et qui l'écrase au sol. Tentative d'attitude adjustment, c'est trop tôt, contré encore une fois par le japonais qui tente un Kinshasa, contré également en STF. Donc prise de soumission de Cena, Nakamura qui arrive à se sortir du STF en le contrant dans un armbar. Beaucoup de contre de Nakamura dans ce match, je trouve qu'ils n'ont pas forcément assez joué là-dessus, mais manifestement il avait beaucoup scout Cena, hein, pour un premier match entre les deux. Donc armbar du japonais, Cena qui s'en sort, et alors là qui cale un lariat qui, je pense que Shinsuke a fait 5 fois le tour de son caleçon Uniqlo là, c'est impressionnant.
Caleçon Uniqlo.
Et donc attitude adjustment, simplement deux attitude adjustment, le premier AA de Cena sur Shinsuke. Nakamura qui contre un second attitude adjustment en guillotine cette fois, mais Cena qui arrive finalement à se sortir de la prise et à replacer un attitude adjustment. Et là, John Cena qui, on ne sait pas s'il pêche par orgueil, mais en tout cas il tente de faire son gros finish de pay-per-view, puisqu'il considère que l'attitude adjustment ne suffit pas. Il roule sur Nakamura pour le remettre en position pour un second, et là c'est contré. Reverse Exploder pour le spot polémique de la soirée qui manque de tuer Cena, parce que c'était vraiment horrible. Il l'envoie sur la nuque. Le The Champ est sonné, Kinshasa de Nakamura, et là, stupeur me concernant, stupeur à beaucoup de niveaux en tout cas, victoire de Shinsuke Nakamura, qui est donc number one contender au bout de 13 minutes de match, donc un match assez court. Petite image assez sympa, puisqu'on voit post-match pendant la musique de victoire que Shinsuke s'excuse, hein, on peut lire sur ses lèvres, hein, qui dit I'm sorry to Cena, parce que vraiment le Exploder était vraiment horrible, et Cena qui beaucoup de classe, qui lui dit t'inquiète, pas de souci. Il le salue, il serre la main, il lève le bras et il le laisse célébrer avec la foule. On finit donc sur une image donc de Shinsuke victorieux contre Cena et challenger à SummerSlam. Qu'est-ce que tu as pensé de tout ça?
Alors, gros match. Est-ce le maître étalon de Nakamura à SmackDown? Probablement, parce que c'est quand même, un de ses meilleurs matchs. Maintenant, il faut qu'il y ait Big John en face pour que Nakamura nous montre de quoi il est vraiment capable. C'est un petit peu chier, quoi, parce que John Cena ne sera pas toujours là, malheureusement. La preuve est que ils ont, comment dire, cramer ce Dream Match dans un weekly. Alors certes pour un first contender pour SummerSlam, mais c'était quand même un weekly de 15 minutes quoi. Donc comme tu l'as dit, hein, on sent que ça y est, hein, les malheureusement les Dream Match de John Cena sont comptés.
Ouais.
Reverra-t-on John Cena versus Nakamura un jour? À mon avis, c'est pas pour tout de suite. Enfin, on verra, mais il va les enchaîner hein, les Dream Match dorénavant. Donc voilà, c'était vraiment un super match, comme tu l'as dit. Il y avait beaucoup de contres et on a vu des prises, un arsenal un peu plus varié de la part de Nakamura qui
ouais,
portait
qui a
des
beaucoup recours aux soumissions. Ouais.
Ouais, il y avait vraiment des belles choses. Donc moi je ok, enfin c'était un excellent main event. Après quelle trajectoire pour les deux quoi. Bon Cena il est free agent donc il a quasiment vraiment plus besoin d'être qu'on écrive des choses pour lui en fait.
Non.
De par sa présence. Là, c'est comme tu l'avais dit, hein, le scénario, l'écriture, l'histoire qu'on nous raconte avec Cena, c'est son dernier chapitre, quoi.
C'est
le chant du cygne. Donc, il y a je sais pas si on va le retrouver vraiment dans des grandes rivalités ou des grandes histoires. On va plutôt le retrouver dans des grands moments, des grands matchs. Tel que c'était celui qu'on a vu. Donc, appréciant ce qu'on voit là avec John Cena, même si j'aurais aimé peut-être que ce match-là le voir dans quelque chose d'un peu plus long, mais je suis même. Enfin, ils en auraient peut-être pas l'occasion, quoi. Donc, voilà. Après, pour Nakamura, je suis un peu plus perplexe. Parce qu'on l'envoie à SummerSlam face à Jinder Mahal pour le titre suprême. Et je suis pas convaincu, toi.
Non, non plus.
Je suis pas convaincu. Je suis pas derrière Nakamura. L'issue du match risque d'être quand même assez, en tout cas, dans les conditions telles qu'elles sont réunies aujourd'hui, avec les variables qu'on a actuellement, c'est fort probable que Nakamura ressort vainqueur de cette rivalité, de ce match-là. Avec évidemment le baron toujours aux aguets. Maintenant, je suis pas, il m'a pas embarqué quoi. Donc c'est pour moi c'est complètement foiré. Ils l'ont propulsé et clairement ils s'en servent également comme un main eventer qui n'a pas besoin de justifier, qui n'a pas besoin de nous convaincre
entre guillemets
ouais c'est ça pour avoir sa place et visiblement enfin j'en sais rien mais visiblement ça je suis on fait partie peut-être des cas pas désespérés mais de cas à part parce que la foule embarque totalement alors la foule embarque vraiment dans son entrée et parce que là en plus il y avait John Cena qu'est-ce qui va se passer quand il va avoir la ceinture s'il a hein, dans le scénario A qui serait il a la ceinture qui se retrouve face à Jinder j'en sais rien je suis pas convaincu j'ai peur que enfin je l'aurais pas vu là moi dans ce main event là enfin toi c'est je trouve que c'est un gros gâteau qu'on lui donne
ouais
pour un mec qui a vraiment rien prouvé encore et ouais je sais pas qu'est-ce que t'en penses toi.
Ouais, bah écoute, je suis un peu comme toi. D'ailleurs, bon bah tu partages les inquiétudes manifestement d'un de nos auditeurs aussi, hein, Beta Vulgaris, qui dit que oui, beau match, mais la suite fait peur. C'est vrai que les perspectives d'un Jinder Mahal Nakamura m'enchantent pas des masses, parce que Nakamura ne m'a pas montré par le passé que face à des catcheurs moyen
c'est
ou
ça.
Correct, il était capable de porter un match ou en tout cas de le faire vivre de par son énergie, son charisme et tout. Il l'a pas montré encore, donc du coup c'est vrai que qu'il se retrouve comme ça dans ce main event à SummerSlam ne m'enchante guère. Ça m'enchante pas non plus d'un point de vue de booking parce que mais en même temps, nous, c'est vrai qu'on n'est pas sensible à son personnage, mais peut-être que ça fonctionne bien. Mais je trouvais qu'il avait pas trop le profil pour s'opposer à Jinder Mahal. il a pas vraiment le profil du héros un petit peu qui vient libérer on va dire l'émission du joug de cette raclure là qu'on nous dépeint depuis des semaines de Jinder le tricheur, Jinder le faiblard, Jinder l'étranger, Jinder le machin et tout. Donc du coup c'est vrai que moi une affiche Cena Mahal me parlait plus, pas forcément pour une victoire de Cena hein, mais en tout cas que ça me parlait plus sur l'opposition. Donc voilà, le choix est un peu étrange, aussi bien en termes de booking qu'en termes de ressenti personnel. Le match, je ne l'ai pas trouvé extraordinaire, mais bon, je pense que c'était un peu volontaire, parce que personnellement, moi, je pense qu'il y aura une suite à ce match-là. Donc ils l'ont volontairement gardé un petit peu court, ils ne voulaient pas non plus nous sortir la folie d'entrée de jeu. Soit, j'ai quand même pas trouvé le match dingue. Je suis très surpris, donc là je fais amende honorable hein, parce que personnellement moi j'avais prédit que le match n'irait jamais à son terme, voire ne commencerait même pas, parce que c'est vrai que je suis quand même très surpris qu'il l'ait donné ce match comme ça gratos. Et non seulement j'avais dit que si il irait pas à son terme, mais que si jamais il devait y avoir un résultat, que ce serait pour moi, ce serait Cena qui gagnerait, parce que voilà, moi je trouvais que c'était plus logique que dans l'optique d'une grande feude dans le futur, dans l'optique d'un moment fort qui devrait impliquer les deux, que Cena prenne la première manche face à un nouvel arrivant et que, un petit peu à l'instar de ce que j'ai expliqué tout à l'heure pour Gable, même si c'est quand même différent comme rapport de force, mais que si jamais il se retrouvait peut-être un jour, que Nakamura revienne revanchard et que le public, du coup, ait peut-être un petit peu plus envie de le voir soulever des montagnes et tout que là. Mais bon, ça c'est perso. Donc voilà, bon, je suis un peu perplexe sur ce résultat pour plein de raisons, pour le booking du match en tant que tel, pour l'avoir donné gratuitement, pour le résultat. Donc c'est vrai que je suis pas enchanté. Bon, déjà parce que Cena a perdu.
Déjà.
Mais bon, au-delà de ça. Et puis il y a ce spot moi qui m'a fait peur, mais bon après ça c'est des trucs qui arrivent aussi, je pense qu'on peut pas non plus, ils savent tous les deux bien catcher. Heureusement que John Cena a un coup de taureau à la Brock Lesnar, parce que je pense que ça sert à ça aussi d'ailleurs d'être musclé du coup hein, mais parce que c'était pas joli, j'ai eu vraiment très peur.
Au cas où quelqu'un vous fasse une souplesse dans la rue.
Ouais, c'est oui, exactement ça. Au cas où tu te battes dans la rue, que tu fasses des German souplesse, des trucs comme ça. Donc écoute, bon, à voir. Moi, le problème, ouais, j'ai vraiment de grosses appréhensions sur ce Nakamura Jinder dans les prochaines semaines, parce que les deux ne savent pas trop parler non plus. Enfin, Jinder, ça va, mais c'est pas la folie.
Ouais.
Donc j'ai un peu peur.
Ouais, c'est ça aussi. C'est les promos, ça va être compliqué. Ça va être compliqué.
Mais par contre, c'est, enfin, en effet, vu les forces en présence et les variables qu'on a, comme tu disais, Nakamura était en rivalité avec Baron Corbin. Si Nakamura gagne le titre, Baron Corbin à la mallette, ça semble presque trop facile. On va voir, mais bon. Voilà, c'est pas le triangle amoureux le plus excitant que j'aurais voulu quoi. Voilà, d'ailleurs, monsieur Tom sur le chat qui dit le baron va cacher, non, bah oui, probablement, ouais, c'est vrai que c'est ce qu'on pourrait se dire.
Il va tenter. Il sera dans les parages, hein, clairement.
Il va dans les parages. Donc écoute, bah voilà, l'émission se termine sur ce main event qui, bon, quoi qu'il arrive, était historique. Donc on va passer au mot de la fin avec le top, le flop et la note.
Alors, moi, mon top, je vais le donner à Chad Gable.
Non, c'est pas grave.
Bon, en plus j'hésitais avec la Fashion Police quoi, mais bon, je donne à Chad Gable parce qu'il a fait une superbe prestation et moi ça m'a vraiment, c'est probablement le match qui m'a le plus émerveillé. Et mon flop, bah, c'est Becky Lynch. Hein, voilà, c'est l'écriture du personnage de Becky Lynch qui est assez. Enfin voilà, trop aussi comme on dit dans le jargon, out of character. Et puis ma note, et ben je mets un bon 4, un solide 4, parce que c'était quand même un superbe épisode. Il n'y a rien à redire à ce niveau-là. On a eu du bon catch, c'était bien dosé, on a eu des belles affiches, on a des belles rivalités. Seule la division féminine vraiment tire l'ensemble vers le fond. Mais sinon, à côté de ça, on a vraiment. Enfin, ce que je disais, hein, on retrouve quand même un peu du SmackDown qu'on aimait tant il y a un an, quoi. Donc, je veux dire, vraiment, il n'y a plus qu'à reprendre la division féminine en main et on aura vraiment des bonnes choses. Alors après, c'est sûr que le titre suprême, enfin le titre, la title picture, pardon. Et toujours aussi étrange,
Ouais.
mais bon, ça correspond malgré tout à l'image que veut avoir SmackDown, donc ça reste logique à ce niveau-là. Donc après, que ça marche ou ça marche pas auprès de nous, c'est autre chose. Mais
C'est sûr.
il y a une écriture, une volonté d'écriture et de booking qui est assez bonne, assez généreuse même pour certaines divisions, certaines rivalités. Donc ouais, un bon cadre bien bien mérité.
Ouais, mais bah écoute, faire la transition directe puisque j'ai la même note que toi. Je vais mettre un 4. J'ai trouvé que c'était un super épisode et qu'on retrouve en effet du SmackDown un peu qu'on aimait bien avec plein de choses qui se passent, du bon catch parce qu'il y avait quand même du très bon catch cette semaine avec trois gros matchs. C'était presque pour une carte que n'aurait pas renié un mini pay-per-view de SmackDown. Il y a eu des bonnes avancées, il y a eu enfin, il y a des choses se sont passées. Si on fait abstraction des filles, il y avait vraiment rien acheté. Donc 4. Mon top, peu importe, je vais quand même le donner à Chad Gable parce que
Allez.
je veux souligner et l'encourager. C'était super ce qu'il a fait. Il a saisi l'opportunité à pleine main et il a couru avec. Et je lui souhaite de percer parce que ça a l'air de bien se passer pour lui. Et puis bah mon flop, je vais le donner pas à Randy Orton, mais à la mémoire de Randy Orton. Enfin, en tout cas, à la mémoire de Poisson Rouge de Randy Orton, qui, jusqu'à preuve du contraire, comme je l'ai dit tout à l'heure, a manifestement complètement oublié que il s'était fait une fois de plus flouer et même pire, étrangler par le Great Khali pour perdre son titre, ne pas regagner son titre à Battleground. Donc, préfère aller manifestement se farcir un Rousseff qui venait de perdre lui aussi à Battleground.
Ah ouais, parce qu'il bon, on lui pardonnera parce que l'affiche est quand même plus bandante que Great Khali,
Ouais,
quoi.
c'est ça. Mais bon, écoute, voilà, donc mon flop, et puis ma note, j'ai dit ce sera 4. Donc voilà qui boucle ce SmackDown avec une carte de SummerSlam côté SmackDown qui se construit, puisque bah, bon, il manque l'officialisation des Usos contre le New Day, mais ça va arriver. Mais nous avons à peu près toutes les rivalités en place. Reste à savoir, en effet, qui sera l'adversaire de John Cena. Est-ce que le seul à SmackDown qui reste, c'est Baron Corbin? Mais est-ce que John Cena ne pourrait pas aller voir du côté de Raw sous sa gimmick de free agent? Mais bon, même à Raw, qui est vraiment libre, on ne sait pas. Donc c'est peut-être la seule inconnue qui nous reste à SmackDown jusqu'à SummerSlam. Il nous reste encore 3 semaines. Donc on verra ça ensemble les semaines prochaines. Jusque-là, eh bien, vous pouvez nous retrouver comme toujours sur YouTube. Pour ceux qui nous regardent en live, ils savent. Pour ceux qui ne nous regardent pas sur la page Les Cahiers du Catch, Catch Up sur YouTube, vous aurez toutes nos vidéos, nos analyses et quelques hors-séries sur les news animées par Hank et Ringside qui reprennent, qui sont de nouveau au turbin. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux @CatchUpCDC sur Twitter, la page CatchUpCDC sur Facebook. Vous pouvez retrouver nos plumes sur le site Les Cahiers du Catch et sur le forum pour discuter avec nous. Et vous avez également la plateforme audio, PodCloud et iTunes également, c'est
Mais,
ça?
oui,
Allez
c'est
mettre
ça,
des
monsieur.
étoiles, allez mettre des pouces partout, commenter, partager, aimer et surtout continuer eh bien, à nous écouter et à prendre du plaisir devant la WWE et devant ce SummerSlam qui se profile. IRM, merci.
Bah, merci à toi, Giscal.
Comme toujours, eh ben, je te dis et je vous dis bonne fin de semaine de catch, à la semaine prochaine. Et puis, jusque-là, portez-vous bien. Allez, ciao, ciao!
Salut! Eh ben, je te fais 5, 4, 3, 2, 1 et puis à 0, t'y vas.